Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver ce samedi matin 17 novembre sur Radion pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Jérôme Attal. Jérôme Attal, dont le dernier roman est disponible actuellement en librairie, roman qui a pour titre 37 étoiles filantes aux éditions Robert Laffont. Jérôme Attal est écrivain et auteur de chansons. Il a publié une dizaine de romans, parmi lesquels, chez Robert Laffont, Les Jonquilles de Green Park et L'Appel de Porto Bello Road, disponible depuis peu en format de poche chez Pocket. Sous le ciel étoilé de Paris, un jour de 1937, Alberto Giacometti, le sculpteur, n'a qu'une idée en tête: casser la gueule à Jean-Paul Sartre. C'est cette histoire, son origine et sa trépidante conclusion qui sont racontées dans le dernier roman de Jérôme Attal, 37 étoiles filantes, que nous avons rencontré le mois dernier, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne au Grand Hôtel de la Cloche, place d'Arcy, à Dijon. Mais si vous le voulez bien, on débute ce numéro de Wagon Livre par une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec notre invité, le romancier Jérôme Attal.
Passer comme une étoile.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Bonjour Jérôme Attal.
Bonjour Yannick.
Alors Jérôme, le tout dernier roman sorti...
Pour la rentrée littéraire 2018, donc il n'y a pas très longtemps, il est sorti en fin août.
Chez Robert Laffont, ouais. 37 étoiles filantes. Jérôme, question rituelle, qui est Jérôme Attal ?
Alors, c'est compliqué. Un enfant sage, j'étais un enfant sage. Et après, j'ai un peu, j'ai fait des études d'histoire de l'art jusqu'à la maîtrise. Et puis ensuite, j'ai fait des chansons et je suis devenu chanteur. J'ai fait un disque en 2005. Et après, qui a eu un petit succès, mais pas suffisamment pour qu'on continue dans cette voie-là avec mon groupe. Et puis j'ai commencé à écrire des textes, pas mal de textes de chansons, et puis également des petites nouvelles dans des revues, et puis des romans. Et là, depuis à peu près 10 ans, j'écris pas mal de romans, et c'est une activité qui me prend beaucoup de temps, qui me plaît énormément, et puis ce qui me permet aussi de voyager un peu dans toute la France avec mes livres et de rencontrer les gens, c'est super.
Alors, plus de 10 romans actuellement à ton actif, la plupart chez Robert Laffont, parmi les plus récents.
À chaque fois, les gens me disent, mais avec tout ce que vous avez fait, comment ça se fait que vous n'êtes pas connu ? Alors, je m'excuse à chaque fois de ne pas être assez connu.
Mais le succès arrive.
Oui, merci, il arrive.
Et est-ce que, comme Ethan, qui est le héros de l'appel de Porto Belo Road, c'est pas le sujet de l'émission, mais lui, il est en quête de succès, de réussite.
C'était le livre précédent, c'est l'appel de Porto Belo Road, et ça n'a pas marché du tout, parce qu'il est sorti pendant les élections présidentielles. C'était la pire période pour les livres. Et ça a été... Alors, il marche bien en poche, parce qu'il vient de sortir chez Pocket, là, en poche. Donc, ça, il se refait une petite santé. Mais à l'époque des présidentielles, là, il est sorti en mars 2017, ça a été une horreur ce livre.
Mais Ethan te ressemble un petit peu.
Alors oui, peut-être, mais en fait dans l'idéal, moi tous les personnages, même Alberto de Giacometti dans le dernier, il me ressemble un peu parce que en tant que lecteur, moi j'aime bien quand les écrivains mettent beaucoup d'eux dans les livres. Donc dans l'idéal, moi je viens d'une tradition, j'aime beaucoup Fitzgerald, Salinger, même Marguerite Duras, enfin des gens qui mettent beaucoup d'eux dans les livres. Donc dans l'idéal, tous les héros des livres que j'écris me ressemblent un petit peu. Mais celui-là précisément parce qu'il est musicien. Et puis, il a eu un petit succès ridicule parce qu'il a écrit le jingle d'une émission météo. Donc ça dure son heure de gloire, son quart d'heure de gloire dure même pas 3 secondes. Et donc voilà, et puis il arrive des tas d'aventures à ce pauvre garçon dont les aventures sont sorties pendant les élections.
Et puis c'est magnifique lorsque les routiers connaissent cette petite chanson de la météo, du câble.
Il est heureux quand il rentre dans une station service et qu'il y a des routiers qui sifflotent sa chanson.
D'ailleurs, Ethan... on disait qu'il te ressemblait un petit peu. Moi, je t'ai croisé souvent dans les salons du livre ou même sur Facebook. Je te vois souvent en train de pousser la chansonnette avec Jean-Joseph Julot ou avec d'autres amis écrivains. Je t'ai vu parfois avec une guitare. Et Ethan, dans le roman, ton roman, L'appel de Porto Belo Road, dit « Faut toujours se méfier des guitaristes ».
Ah oui, parce que c'est... je ne sais plus pourquoi il dit ça, mais oui. Non, mais les guitaristes...
C'est à la caisse au moment où il est...
Ah oui, c'est toujours des êtres spéciaux, un peu, les guitaristes. Hein. Ils sont toujours un peu dans leur... on se demande où ils ont vécu de 7 à 14 ans. Ils étaient quelque part dans leur chambre en train d'essayer de jouer de la guitare tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ce sont des êtres un peu mystérieux et un peu dans leur monde. Donc, c'est toujours très drôle.
En tout cas, l'appel de Porto Belo Road va peut-être connaître un meilleur succès en poche. Moi, je l'ai lu il y a quelques jours.
J'espère.
Et je me suis beaucoup amusé, même s'il y a des réflexions graves parfois dans ce roman. Parce que c'est l'histoire de Ethan, un jeune homme de 35 ans qui reçoit un coup de téléphone de sa mère. Pourtant, ses deux parents sont morts. Ouais. Et sa mère donc lui donne des nouvelles de là où il se trouve. Et elle lui dit surtout, passe le bonjour à ta sœur. Ouais. Or, il se passe que Ethan n'a jamais eu de sœur. Et le voilà engagé vers de folles aventures.
En fait, il ne sait pas s'il rêve ou pas. Mais en pleine nuit, il reçoit un coup de fil de ses parents qui sont morts il n'y a pas longtemps. Et en raccrochant, sa mère lui dit surtout, dis à ta sœur qu'on pense à elle tous les jours. Et là, il est un peu troublé parce qu'il est fils unique. Quoi. Donc depuis qu'il est tout petit, il n'a jamais vu de sœur. Il commence à se remémorer, à convoquer les souvenirs et à se dire, est-ce que quand j'étais en train de jouer dans ma chambre, mes parents n'allaient pas voir une autre petite fille ? Est-ce qu'il n'y a pas un pan de ma vie qu'on m'a entièrement dissimulé ? Et donc, il se jette dans une quête comme ça pendant tout le livre pour aller à la recherche de cette sœur hypothétique.
Alors maintenant, intéressons-nous à ton dernier roman, actuellement en librairie chez Robert Laffont et qui a pour titre 37 étoiles filantes. Alors, le point de départ, c'est une anecdote qui a été rapportée par le peintre Baltus.
et qui raconte, en fait, ce que tu racontes, c'est l'histoire peut-être du plus gros cassage ou plus grosse volonté de cassage de gueule de la première moitié du XXe siècle.
Et alors c'est drôle parce qu'au départ, le roman, je voulais l'appeler comme ça. Je voulais l'appeler le plus grand cassage de gueule du XXe siècle. Et puis j'ai opté pour un titre plus poétique au final, mais c'était un peu mon titre de travail. Et oui, alors c'est Balthus qui, dans une interview de moi, j'aime beaucoup les entretiens de peintres. C'est toujours un genre qui est un peu caché au fond des librairies. Et moi, ça me plaît vraiment parce que j'y trouve aussi des réflexions par rapport à mon travail ou par rapport à la vie quotidienne. Je trouve qu'ils sont très enrichissantes. Et dans les entretiens de Balthus, l'intervieweur demande à Balthus : qu'est-ce que vous pensez de Giacometti ? Alors Balthus, dans sa morgue un peu aristocrate comme ça, il ne va pas donner un avis sur un confrère ou un rival. Il raconte simplement : ah, mais Giacometti, je me souviens, en 1937, il a eu un accident de la circulation. Il s'est fait renverser par une américaine au volant d'une américaine. Et pendant qu'il était à l'hôpital, Jean-Paul Sartre racontait dans tout Paris : ah, il lui est enfin arrivé quelque chose. Et j'ai trouvé ça mais tellement moderne et tellement mordant, tellement vachard, tellement, tellement rigolo que je me suis dit : mais je vais déployer un roman à partir de ça. Ça m'a donné, ça m'a ouvert toutes des perspectives de romanesque.
Et donc Jean-Paul Sartre, je te cite, hein, a postillonné un commentaire fielleux, donc suite à l'accident du sculpteur Alberto Giacometti, il lui est enfin arrivé quelque chose. Et cette baffe de Sartre remonte aux oreilles de Giacometti.
J'aime bien l'expression cette baffe, parce qu'on a l'impression d'un peu un crapaud et on voit un peu le visage.
Tu n'es pas tendre avec Sartre, puisque tantôt il est un vieux crapaud qui émerge du dessous d'un nénuphar, ou alors il est carrément appelé crapaud grimaçant. Il est vrai que Jean-Paul
pas
Sartre...
Par des personnages.
Alors, par les personnages.
Ah, par les personnages.
Par les personnages.
Je ne me permettrai pas.
C'est vrai que d'ailleurs, tu présentes toutes tes excuses à tous les personnages à la fin de ton roman.
Mais oui, parce que je trouve ça normal de présenter ses excuses à des gens qui n'ont rien demandé. Moi, je les prends un peu comme mes personnages, comme quand je jouais au Playmobil quand j'étais enfant, quoi. Et donc, je tiens à leur présenter mes excuses. Mais, Jean-Paul Sartre... Alors, il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Ah, mais bravo quand même, parce que Jean-Paul Sartre, faut quand même le faire tomber de son piédestal, parce que c'est quand même un mec qui s'est trompé tout le temps. » Et je trouve ça assez rigolo, cette expression de s'être trompé tout le temps.
Avec les personnages, donc, nous sommes... En 1937,
tout à fait.
Peu de temps après le Front populaire, dans une Europe en pleine ébullition idéologique.
Il y a la guerre d'Espagne, hein, qui est une guerre civile sanguinaire, meurtrière, pendant laquelle Hitler teste tout son matériel de combat. Donc c'est déjà... Et Paris est un peu une dernière plaque tournante de l'insouciance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup de types aussi qui viennent faire la guerre d'Espagne et qui viennent se réfugier pour quelques mois à Montparnasse. Enfin, Paris, c'est vraiment les derniers feux de l'insouciance. C'est pour ça que c'était une période aussi très intéressante à travailler.
Alors, bien sûr, dans cette France de 1937, il y a des terrorismes, il y a des agents secrets qui sont là. Il y a la cagoule, ce groupuscule d'extrême droite.
Oui, c'est un groupuscule d'extrême droite qui tentait de faire des attentats et de faire le coup de poing et qui était contre le gouvernement qui faisait le coup de poing fréquemment.
Alors, il y a aussi l'OVRA, c'est l'Organisation de Surveillance et de Répression de l'Antifascisme. Ouais. Et puis, cette guerre d'Espagne, on l'a dit, mais il y a aussi des jolies choses, comme ce nouvel hebdomadaire à la mode, Marie-Claire. Et puis, il y a tous ces artistes, c'est un peu la bohème, non plus de Montmartre, mais cette fois-ci, la bohème s'est déplacée Montparnasse.
C'est maintenant à Montparnasse que ça se passe.
Ouais. Et donc, notre Alberto Giacometti entre en scène. Alors, je rappelle simplement pour nos auditrices et auditeurs que Giacometti est né en 1901, qu'il est mort en 1966. Et en 1937, il a 35 ans et c'est un sculpteur qui n'a pas encore véritablement percé. Il est à la recherche du succès.
C'est ça. Ce qui était chouette aussi, c'est de les prendre tous les deux, Giacometti et Sartre, vers 35 ans, à un moment donné où ils cherchent leur formule. Ils cherchent leur formule pour être connus. C'est-à-dire que les deux vont être connus vraiment de manière nationale et mondiale après-guerre. Et Giacometti, il a eu un petit succès quand même grâce aux surréalistes. Il y a André Breton qui l'a un peu pris sous son aile. André Breton a sorti un livre en 1936-1937 qui s'appelle L'amour fou, dans lequel il y a une grande partie qui est réservée aux sculptures de Giacometti. Et Giacometti lui-même a créé et a conçu pas mal de sculptures dans l'esprit surréaliste. Mais finalement, Là, il arrive un peu à la fin de son aventure surréaliste. Il a l'impression qu'on l'a un peu pris pour un guignol. Il a fait des sculptures drôles, un peu décalées. Et il a envie de trouver sa recette à lui. Il a envie de trouver une crédibilité propre et une voie artistique qui se détache un peu de tous les courants à la mode.
Et d'ailleurs, Alberto Giacometti dit à son frère, Diego, qui se trouve dans, dans le roman, il lui dit « Il faut beaucoup travailler parce qu'un jour, tout est derrière toi ». Tu te retournes et si tu n'as rien fait de solide, la sensation de gâchis t'aspire. C'est valable aussi pour les écrivains ?
Ah oui, bah oui, moi ça m'amuse de trouver des trucs qui me parlent à moi et puis de les mettre dans, dans la bouche d'Alberto Giacometti.
Alors là, Jérôme, ce que je viens de lire, ouais. Est-ce que c'est une citation que tu as reprise ou est-ce que c'est vraiment une invention ?
Ah non, non, j'invente.
C'est
non,
une invention.
Oui, non, non, sinon ça n'a aucun intérêt. Ah non, non, non. Moi, je suis un romancier avant tout, donc si je me contentais de reprendre des citations, ça ne m'intéresserait pas du tout.
Certes, mais comme le petit poussé, tu pourrais en semer quelques-unes
ouais,
dans
non,
le roman.
Ça ne t'intéresse pas du tout. Je suis trop orgueilleux pour ça. J'ai envie de créer. J'ai envie d'inventer mes trucs. Donc, sinon, je lis Wikipédia si je veux des citations vraies. Là, l'idée, c'est ce que dit Cocteau. Ce sont des mensonges qui deviennent des vérités.
Des mensonges qui deviennent des vérités. En tout cas, la vérité aujourd'hui, c'est que c'est bien Jérôme Attal qui est l'invité de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Son dernier roman a pour titre 37 étoiles filantes et il est disponible en librairie aux éditions Stock. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur votre radio locale.
Il y avait Sergueï à la guitare qui gueulait comme un barbare, même qu'il gueulait si fort que le DJ en est mort. Il avait la voix qui se brisait au bout de chaque fin de mot, ses yeux paumés dans cet écho qui nous faisait tous vibrer. C'était ça la victoire, mon Sergueï, tant c'est que plus rien ne nous faisait taire. Buvons à la victoire, mon Sergueï. Buvons jusqu'à ce qu'elle nous revienne. Et quand on trinquerait la dernière, ce serait pas pour se dire adieu, ce serait qu'on irait déjà mieux et que le monde nous foutrait la paix. On irait rire au pied d'un banc sous les coups de la flicaille. On fêterait nos retrouvailles sous le regard des morts vivants. Ce serait ça la victoire, mon Sergueï, quand c'est que plus rien ne nous ferait taire. Buvons à la victoire, mon Sergueï, buvons jusqu'à ce qu'elle nous revienne. Toi tu brandis tes 60 ans comme un bouquet de chrysanthèmes. Moi je me plie sous la vingtaine comme si une pierre était un an. Nous deux bâtards qui subissons le fouet de la patronne des bars et la claque du sieur showbiz. La guitare est notre éclairant. C'était ça la victoire, mon Sergueï, quand c'est que plus rien ne nous faisait taire. Buvons à la victoire, mon Sergueï, buvons jusqu'à ce qu'elle nous revienne. C'était ça la victoire, mon Sergueï, quand c'est que plus rien ne nous faisait taire. Buvons à la victoire, mon Sergueï, buvons jusqu'à ce qu'elle nous revienne.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Sans tarder, retrouvons notre invité aujourd'hui dans Wagon Livre. C'est Jérôme Attal qui signe un nouveau roman aux éditions Robert Laffont. Un nouveau roman qui a pour titre 37 étoiles filantes.
Alors Giacometti est un peu en concurrence avec un autre peintre qui n'a pas une place importante dans le roman, mais il en est parfois fait question, c'est Picasso. C'est-à-dire, il ne faut pas se faire piquer ses modèles.
Ah bah
en
parce
fait.
Qu'il lui pique toutes les filles.
Et, oui.
Et Giacometti, il a quand même une libido assez développée. Hein. C'est un artiste, il arrive là, de Suisse, il découvre Montparnasse, il découvre Paris, et il a envie de séduire des filles. Mais comme Jean-Paul Sartre aussi. Et le problème, c'est qu'il est plus maladroit que Picasso. Picasso, lui, il amène le modèle dans l'atelier et hop.
Oui, parce qu'il est même carrément question du regard priapique de Picasso.
Ouais. Ça m'amuse. Parce que, en fait, moi, j'ai une bonne vanne sur Picasso parce que quand on dit à chaque fois qu'il change de style, en fait, il change de femme. Tous les styles différents lui viennent du visage d'une nouvelle femme qu'il aime. Ce sera intéressant de faire un bouquin sur... Enfin, ça a déjà été fait, des bouquins sur Picasso par rapport aux femmes. Mais entre les différents styles, le cubisme, le retour à le néo-ingrisme et tout ça, par rapport aux femmes qu'il a aimées, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire.
Et puis, il y a alors cette réflexion très forte chez Picasso. Il sait ce qu'il voit, tandis que Giacometti voit ce qu'il ne sait pas. C'est ce que tu écris à un moment. Ça, c'est formidable,
oui.
Ce chiasme.
Oui, et puis, en fait, il y a une phrase que j'ai vraiment piquée pour le coup à Alberto Giacometti, c'est quand il dit, et un truc que j'adore, il dit qu'il commence toujours à partir de là où il ne sait pas. Je trouve ça génial, quand on crée pour un créateur, de commencer toujours à partir de là où il ne sait pas. Moi, c'est un truc qui me parle, je trouve ça réconfortant, rassurant, ça donne envie de faire des choses. Ça décomplexe. On se dit, finalement, ne pas savoir, c'est pas grave si on a envie de créer. On peut y aller.
Jérôme, restons dans le domaine de la peinture. Là, c'est dans l'appel de Porto Bello Road, il y a une jeune peintre excentrique que croise Ethan dans cette folle soirée qui est dans un bâtiment qui est un ancien institut de jeunes filles.
Oui, qui existe vraiment, moi, qui me fascine. Ah oui. Quand on prend l'autoroute, là, quand on va en Belgique, on voit ce truc des bateliers, là, ce home pour bateliers, pour les enfants des bateliers qui va un jour disparaître parce qu'il est en ruine, mais c'est un bâtiment assez emblématique.
Alors, la jeune peintre dit à Ethan, au départ, je peignais des portraits. Mais je ne savais jamais à quel moment m'arrêter. J'étais toujours tentée de rajouter quelque chose. Les gens sont si surprenants. Alors je me suis mise à peindre des paysages. Uniquement des paysages. Pour la simple raison qu'on n'est jamais tenté de rajouter une moustache à un paysage. C'est assez drôle aussi.
Ouais, ben merci. Ouais, puis ça fait un peu référence à Duchamp, à plein de trucs. Donc c'est plutôt sympa.
Alors, côté littérature, Giacometti, c'est pas un lecteur de Sartre, c'est pas un grand lecteur. Lui, sa Bible, c'est un petit peu les pieds nickelés.
Ouais.
Il le dit à une jeune femme charmante.
Mais ça, j'ai un peu mis moi aussi, parce qu'il y a une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Stéphanie Hochet. Et j'étais à la Société des gens de lettres à Paris avec elle l'autre jour. Et on rentrait à pied comme ça dans la nuit. Et elle me disait, mais moi, à 17 ans, j'avais lu Proust, j'avais lu Balzac, j'avais lu Victor Hugo. Et moi, je disais, moi, à 17 ans, j'avais lu Astérix, j'avais lu Strange, j'avais lu les super-héros, les comics américains, tout ça. Et donc, voilà, j'aime bien l'idée que lui aussi, Giacometti, il n'ait lu que les pieds nickelés, ce qui est peut-être faux. Mais les pieds nickelés étaient très à la mode en ce temps-là.
Lui explique à la jeune femme qui l'a sauvée sur les quais, qui a été agressée par d'étranges personnages, notamment. Il lui explique que finalement l'esprit français se trouve dans les pieds nickelés, c'est-à-dire Croquignol, Filochard et Rigoulding.
Ça c'est une vanne un peu méchante sur l'air du temps. C'est-à-dire que je trouve que les Français, parfois, on aimerait beaucoup être les mousquetaires, et puis en fait, on n'est que les pieds nickelés. Et ça, c'est un peu triste.
Mais d'ailleurs,
il faudrait qu'on retrouve du panache pour être. Il faudrait qu'on retrouve un panache un peu à la Churchill pour redevenir des mousquetaires dans notre vie de tous les jours.
Si tu le veux bien, Jérôme, on marque une nouvelle pause musicale à bord de ce wagon livre. Je rappelle que tu signes chez Robert Laffont un roman intitulé 37 étoiles filantes, une délicieuse comédie. Constellé de pensées sur la création et de rencontres avec de nombreuses femmes, on aura d'ailleurs l'occasion d'en parler un petit peu plus tard au cours de notre échange. Excellente fin de matinée sur Radion, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Ce samedi matin, c'est Jérôme Attal, romancier et auteur de chansons, qui est devant notre micro pour son dernier roman intitulé 37 étoiles filantes, un roman disponible en librairie aux éditions Robert Laffont.
Parlons un peu des femmes qui se trouvent dans ce roman. Il faut en parler. Alors, le frère de Alberto, Diego, il est avec Nelly.
Oui, parce que Diego, c'est vraiment le pendant d'Alberto. C'est-à-dire qu'il est tout timide, il est moins expansif qu'Alberto. Et puis, il est très présent parce qu'il vit avec Alberto dans son atelier. Depuis que leur père est mort, en plus Alberto, il se sent une responsabilité de s'occuper de son frère, donc il est tout le temps en permanence avec lui, il l'aide à travailler aussi, il lui prépare ce qu'il faut pour travailler, et ils ont une relation très très forte, les deux frères.
Alors Diego, il a une compagne qui se prénomme Nelly. Et Nelly, elle a beaucoup déplu à Madame Giacometti parce qu'elle a fait un geste déplorable, ouais. Au dôme, me semble-t-il.
Oui,
ou
alors,
à la coupole, je ne sais
alors
plus.
Alors, encore une fois, ça, c'est une anecdote que j'ai piquée chez moi. En fait, c'est ma maman qui vient de... Elle n'est plus de ce monde maintenant, mais elle m'avait raconté cette histoire. Elle vient de la bourgeoisie belge. Et quand elle avait 18 ans, elle avait un prétendant qui était venu, comme ça se faisait à l'époque, déjeuner avec au milieu de la famille, quoi, pour voir si la famille validait le choix de ce garçon-là et tout ça. Et le malheureux, on a servi de la salade et le malheureux a coupé la salade avec ses couverts, avec des couverts en argent. Et là, toute la famille a dit à ma mère, on ne veut plus jamais revoir ce type à la maison. Et je trouvais ça horrible comme histoire.
Oui,
c'est un peu désuet maintenant surtout, mais en même temps je trouvais ça horrible et à la fois marrant. Et je me suis dit, je vais la mettre dans ce livre parce que ça va être sympa si tout le monde déteste la pauvre femme de Diego, Alberto compris, à cause de cette histoire de couvert en argent.
Alberto, qui est présenté avec sa tête de pâtre ou qui est un pâtre à tête frisée avec sa chevelure ébouriffée, tu l'as dit, Jérôme, c'est un consommateur de femmes. Il va au bordel. Bon, il va au Sphinx. Là aussi, il y a quelques pages absolument magnifiques avec cette prostituée.
C'est le grand bordel de Montparnasse, là, boulevard Edgar Quinet, qui s'appelait le Sphinx. C'est très joli.
Et là, il y a quelques très bonnes pages où, effectivement, il a l'impression de voyager avec le corps de ses filles qu'on lui vend d'une certaine manière.
C'est ça. Mais il a une vraie affection pour l'une d'elles qui s'appelle Rosalie, qui lui rappelle un modèle de voiture, qui était la Rosalie, qui était un modèle de Citroën très, très connu à l'époque. Et Alberto, il va au bordel avec... mais avec un peu de sentimentalisme quand même.
Alors, il y a Isabelle, qui est au début l'officiel de Alberto, si ce n'est qu'il est sur le point de rompre avec elle, peu de temps après qu'il a l'accident.
Il veut rompre avec elle au moment où la voiture lui fonce dessus. Et Isabelle, elle a vraiment aussi existé, c'est une Anglaise qui est venue à Paris pour être modèle et qui a été la modèle d'André Derain, notamment, voilà, et aussi d'Alberto.
Alors, elle connaît Sartre et c'est elle, donc, qui raconte à Alberto le propos fielleux de
Sartre. Voilà, c'est moi qui l'invente un petit
D'accord.
peu, hein, c'est toute cette partie. Mais effectivement, j'ai l'idée que les Français et les Parisiens ayant inventé la terrasse, j'ai l'idée un peu quand même que tout ce monde se rencontre à un moment donné dans Montparnasse. Et donc, Isabelle est au courant de toutes les intrigues, de toutes les histoires. Et comme elle voit que son amoureux Alberto va se départir d'elle, elle lui rapporte cette vacherie pour l'énerver.
Il faut dire aussi que le monde littéraire de cette époque n'est pas très tendre, c'est un peu le panier de crabe.
Ouais.
C'est peut-être encore un peu la même chose aujourd'hui, Jérôme.
Pareil. Mais c'est ça qui était rigolo, c'est que j'avais l'impression que l'année 37, c'était un peu comme aujourd'hui, soit au niveau politique, avec, alors nous on n'a pas, heureusement on n'a pas Hitler et Mussolini et tout ça, mais on a quand même des nationalismes forts qui reviennent, du populisme, et puis on a des personnages un peu tarés, que ce soit enfin dans les grandes, ou à la tête des grandes puissances du monde, hein, c'est quand même très tendu, il y a vraiment un climat un peu 37, et puis aussi dans notre vie plus, plus personnelle et plus proche. Voilà, j'ai l'impression que le milieu littéraire est effectivement un peu le même, que le milieu artistique aussi, que les rapports avec les femmes sont aussi un petit peu pareils. Enfin, il y a vraiment un côté très 37 aujourd'hui, mais j'espère simplement qu'on va continuer à garder notre insouciance. C'est tout l'enjeu aussi de la littérature aujourd'hui. Enfin, moi, la manière dont j'aborde les livres, c'est j'essaie toujours de faire des livres alors qu'ils ne sont pas seulement insouciants, mais je trouve que la vie est tellement pesante que j'essaie de faire des livres quand même dans lesquels j'en rajoute pas en pelleté de malheur.
Alors, autre femme, il y a Julia. Alors, ouais. Julia compte beaucoup pour Giacometti jusqu'à l'extrême fin du roman où on apprend un peu ce qu'elle devient puisqu'elle disparaît dans les brumes. C'est une étoile filante un peu dans la vie.
En fait, tout le monde, ils sont tous des étoiles filantes. C'est-à-dire que Giacometti aussi en 40 va partir, il va s'enfuir, il va aller quelques années en Suisse. C'est vraiment ce Montparnasse-là, c'est sur une terre volcanique. C'est tout le monde va être balayé par la guerre et va partir à droite et à gauche. Et donc Julia, c'est une jeune juive qui a été que Alberto Giacometti va rencontrer sur les quais de la Seine au moment où elle se fait agresser par des nazillons qui sont là.
Et un inspecteur de la Sûreté nationale. Filippo.
Ouais.
Non pas Florian, mais Salomon.
Mais non. Alors oui, alors j'ai pas du tout pensé à Florian Filippo en plus. Non, je pensais plutôt, je voyais plutôt le physiquement, je le voyais un peu comme cet acteur Marcel Filippo. Vous savez, qui était un acteur qui jouait pas mal de second rôle et qui était assez connu au théâtre. Et voilà, donc il s'appelle comme ça. Et donc, il y a des bagarres. En fait, ils font tous le... C'est un climat politique tellement tendu en 37 qu'il y a souvent des coups de poing en pleine rue, comme ça, pour un oui ou pour un non. Et Alberto, il tombe sur une bastonnade où c'est des mecs qui agressent une femme, c'est surtout ça avant tout. Et donc, il se porte à son secours. Et il va tomber amoureux et perdument de cette fille. Il va être un peu obsédé par elle. Il va vouloir la sculpter, la peindre. Et elle va s'échapper toujours parce que son rêve, c'est de partir en Amérique. Et elle attend toujours un bateau qu'elle remet au lendemain. Et le bateau ne part jamais ou alors il part sans elle.
Le destin de ces pauvres femmes auxquelles les hommes promettent monts et merveilles,
oui,
et
ouais,
qui ne leur apportent rien.
Ouais.
Puisqu'elle a soi-disant rencontré un génial inventeur qui, je crois, travaille dans
il a inventé des éclairages,
voilà, c'est ça,
à Hollywood pour être plus performant. Il a inventé des spots pour les acteurs.
Et il lui promet de l'emmener aux États-Unis, voilà. Et finalement, il ne se passe rien. Pour
et Alberto lui dit que finalement, je suis sûr qu'il ne croit pas vraiment au progrès. Il dit, je suis sûr que cet inventeur d'éclairage, les éclairages, ils serviront à torturer des gens, enfin, à mettre la lumière sur la gueule des gens.
Mais Julia, elle encourage Alberto Giacometti à se battre en duel contre Sartre.
Alors, c'est lui. Elle lui dit simplement, il faut des témoins pour se battre en duel. Alors lui, il dit, ah mais génial, ça va être une occasion de vous revoir, je vous veux comme témoin, absolument. Et voilà, il va essayer de l'embaucher comme témoin parce qu'il rêve d'un duel avec Sartre, il veut laver cet affront. En fait, ce qui était aussi marrant, c'est que Sartre, il a toujours besoin des autres pour écrire ou pour travailler, contrairement à Giacometti. Sartre, il n'a pas de pensée seul, c'est pas un artiste, c'est quelqu'un qui a besoin du monde extérieur, des tumultes du monde extérieur pour pouvoir développer sa propre pensée. Alors soit il la développe à partir de philosophes, soit il la développe à partir d'événements politiques, mais donc c'était d'autant plus croustillant qu'il balance une vacherie sur un type dont il va avoir besoin d'étudier le travail pour pouvoir ensuite travailler par lui-même. Et voilà.
Sartre, justement, est sur le point de faire paraître son premier roman.
Ah oui,
et d'ailleurs, il veut en mettre plein la vue aux deux femmes.
À toutes les femmes. Il est très excité par ça.
Il y en a deux, surtout. Il y a Simone.
Ouais. À Simone,
Castor.
Ah ouais.
Et Olga.
Il est très excité parce que, en fait, il a écrit un essai sur l'imaginaire, mais évidemment, un essai un peu compliqué. Et toutes les filles dans son entourage, elles n'ont pas dépassé la page 3. Et là, il se dit. Mais alors, avec un roman, ça va être extraordinaire, un roman. Je vais conquérir le cœur des jeunes femmes. C'est son but. Le problème, c'est que son éditeur, Gaston Gallimard, lui propose comme titre La Nausée. Et là, il se dit non, mais ça ne va pas le faire, quoi. la nausée, mais personne ne va vouloir l'acheter ce livre. Et donc il profite de devoir se faire changer ses lunettes.
Ah oui, alors là il y a un passage extraordinaire, Jérôme, je te prie de m'excuser, je t'interromps, mais c'est un passage délicieux où Jean-Paul, alors en plus il y a ce jeu de mots, Jean-Paul a besoin d'une bonne correction. Il va chez un lunetier qui s'appelle Maxence Péricard.
Parce qu'à l'époque, on disait des lunetiers.
Lunetiers. Ouais. Et Sartre veut des petites lunettes rondes comme le peintre Frugitin.
Ouais.
Et là, le lunetier se laisse au départ un peu impressionné par le fait qu'il reçoit un jeune romancier. Et quand effectivement Sartre lui dit que son premier roman va s'intituler, sur les conseils de son éditeur, La Nausée, il y a là un dialogue extraordinaire. Il faudrait pouvoir le mettre en scène, ce dialogue. Magnifique.
Mais alors, merci Yannick, parce que tout le monde me parle d'adaptation théâtrale pour ce livre et on me dit mais il faut absolument jouer ça au théâtre. Parce qu'en plus, quand je le lis dans les rencontres et dans les dédicaces, tout le monde est mort de rire. Et oui, en fait, parce que le lunetier, quand Sartre, il a envie de tester un peu son titre parce qu'il n'est pas très content. Mais il ne sait pas s'il doit faire confiance à son éditeur ou pas. Et il dit au lunetier, alors vous voyez, le titre, c'est la nausée qu'on me propose. Et le lunetier, il fait, non mais la nausée, mais ça ne va pas. Pourquoi pas Burke ou le vomi pendant qu'on y est. Voilà, donc il y a un dialogue assez croustillant.
Et il y a la question du lunetier à Sartre, la philosophie. Et c'est quoi au juste la philosophie? Et alors Sartre répond, eh bien avant tout, je dirais que c'est pour chaque chose avoir une vision de ce que vous êtes. Et bien sûr, dans ce contexte du choix d'une nouvelle monture, d'une nouvelle correction pour Sartre. Elles sont importantes, ces petites lunettes, mais je n'en dis pas plus.
Ah ouais, elles sont importantes.
Elles sont très importantes. Et d'ailleurs, ce choix de lunettes est présenté par Sartre comme la révolution aristotélicienne pour le visage.
Oui, parce qu'elles sont rondes, donc c'est un côté très Aristote.
Il y a quelques réflexions, bien sûr, sur les écrivains, Jérôme. J'en ai relevé une dans ton roman, dont je rappelle le titre, 37 étoiles filantes. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a 37 chapitres, hein, ça aussi,
oui.
Petit clin d'œil.
Ouais.
Tu l'avais fait exprès
bravo,
quand même.
Bien sûr.
D'accord. Les véritables écrivains, c'est en eux qu'ils vont chercher ce qu'ils ont à dire.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'avais été, en travaillant sur ce livre, j'ai repensé à un apostrophe de Bernard Pivot avec Marguerite Duras, qui est un auteur que j'adore. Et à un moment donné, Pivot demande à Duras, alors pour vous Marguerite, quels sont les grands écrivains de ce siècle, donc le siècle dernier? Et Marguerite dit, pour moi il n'y en a que deux, il y a Blanchot et Bataille. Alors Pivot tombe un peu dénu, il dit quand même Marguerite, il n'y en a que deux? Elle fait, oui, Blanchot et Bataille. Pivot dit, mais quand même Marguerite, le XXe siècle, Jean-Paul Sartre quand même. Marguerite fait, non. Blanchot et Bataille. Alors Pivot, là, il explose. Il fait, Marguerite, mais Jean-Paul Sartre! Et Marguerite Duras a cette réponse géniale. Elle fait, non, Jean-Paul Sartre n'est pas un écrivain parce qu'il a toujours besoin du monde extérieur pour écrire. Alors qu'un véritable écrivain, ça part d'abord de lui. Voilà, et évidemment, j'ai pensé à ça en écrivant ce livre et je l'ai un peu reformulé là-dedans. Mais regardez, si vous avez l'occasion, cette apostrophe, parce que c'est assez croustillant.
Non, nous suivrons tes conseils, ouais. Jérôme. Autre phrase, cette fois-ci relevée dans l'appel de Portobello Road. La création, c'est du langage. Et dans ce langage, il y a davantage de douleur que de mystère.
Ouais.
Davantage de douleur que de mystère dans le langage.
Dans la création.
Dans la création.
Je ne sais pas, il faudrait que je retrouve le contexte du livre. Mais non, je trouve que c'est une jolie phrase, ça me plaît, c'est pas mal. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait le relire dans le contexte du livre. Mais peut-être. Enfin, dans l'idéal, il y a quand même du mystère. Dans l'idéal, il y a un peu de douleur. Après, moi, je ne crois pas. Moi, je travaille mieux quand je ne suis pas triste. Je ne crois pas aux gens qui ont besoin de se fabriquer de la douleur ou d'être dans la douleur pour travailler. J'ai l'impression quand même que plus on est heureux, plus on est performant dans le travail. Et puis, on est assez lucide sur ce monde pour avoir une vision sur la douleur dont on est entouré en permanence.
Alors tu vas penser que vraiment j'ai listé beaucoup de petites phrases du roman, mais pour moi elles sont l'occasion à une réflexion.
Moi, ce qui me plaît le plus, c'est quand des lectrices ou des lecteurs viennent me voir avec des post-it, tu sais, dans le livre là, et puis des phrases qu'ils ont stabilotées. J'adore.
Et ça tu aimes?
J'adore.
Si tu le veux bien, Jérôme, on reprend notre conversation juste après une nouvelle virgule musicale à bord de Wagon Livre. Je rappelle le titre de ton dernier roman, 37 étoiles filantes, disponible aux éditions Robert Laffont. Et je rappelle aussi que tu as été récompensé lors de la 11e édition de Livre en Vigne, grande fête du livre au cœur du vignoble bourguignon qui s'est tenue les 22 et 23 septembre dernier. Tu y as reçu le prix coup de cœur Rougeot-Meursault. C'est une belle récompense. 37 étoiles filantes, Jérôme Attal. Nous revenons avec vous juste après la pause musicale. C'est Wagon Livre sur Radion.
Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar and spice, I feel nice. That sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
37 étoiles filantes, c'est le titre du dernier roman de notre invité, Jérôme Attal, une comédie tourbillonnante constellée de pensées sur la création et de rencontres avec des femmes espiègles, mystérieuses et modernes. Là, dans 37 étoiles filantes, il y a aussi un personnage qu'on a un peu oublié, c'est l'auteur de Jules et Jim, c'est Henri-Pierre Rocher.
Ouais.
Qui dit, alors c'est un homme, il a 60 ans en 37, hein, oui, c'est alors, un homme d'une autre époque en fait.
Alors ce qui était intéressant, c'est que lui il apporte un contrepoint un peu plus distant parce qu'il est d'une autre génération. Il est il a à peu près peut-être 50 ans quand les autres en ont 30, 35.
Oui, il est né en 1879 et il est mort en 59.
D'accord.
Pour rappel, et il a cette phrase, les romans d'amour, ce sont les seuls romans qui parviennent à traverser le temps.
Ouais.
Tu en as écrit des romans d'amour, Jérôme ?
Mais tous, celui-là aussi. Non, mais moi, tous mes romans, c'est des romans d'amour. Non, mais ça, c'est une phrase que je lui fais dire, mais que j'ai, voilà, c'est... Oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en plus, il y a un peu sur les romans d'amour, on a tendance à croire que ce sont des romans à l'eau de rose, et c'est assez mal vu. Il y a un peu la cote, quand même, pour le fait divers. Enfin, que ce soit à la télévision ou dans la littérature, on sait bien qu'il y a vraiment un appétit du public pour le fait divers. Mais moi, j'aime bien les romans d'amour. Je suis attaché aux romans d'amour. Donc, Rocher, qui est quand même un grand amoureux, parce qu'il a écrit Jules et Jim, mais aussi Les Deux Anglaises et Le Continent, ça me plaisait de lui faire dire une phrase comme ça.
Autre citation, alors les écrivains, cette fois-ci je crois que c'est par rapport à cette phrase extrêmement désobligeante de Sartre à l'égard de Giacometti, je crois que c'est une des femmes dans une soirée, dans un bar qui dit « Les écrivains estiment que pour être... » Non, c'est Giacometti qui dit cela, pardon. « Les écrivains estiment que pour être reconnus comme de grands écrivains, il faut qu'ils se comportent comme des merdes dans la vie. »
Ouais.
Est-ce qu'il faut que les écrivains se comportent comme des merdes dans
la vie ?
Ah
non, moi je ne le crois pas.
Toi, tu...
Mais non, non, je le défends. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui pensent que plus. Moi, je trouve aujourd'hui, de nos jours, il y a quand même une promotion pour les gens mal élevés ou les gens qui ouvrent leur gueule ou les gens qui montent au créneau. Et ça me désole. Je trouve que...
Des noms.
Mais non, pas de noms. Mais je trouve que c'est aussi la culture du clash hein, aujourd'hui. Je trouve qu'on y arrive plus vite, on a plus d'exposition quand on ouvre sa gueule. Et ça me désole pas. Je trouve que c'est un sale temps pour les timides et c'est ce qui est exprimé sans doute dans ce passage.
Alors c'est un sale temps aussi pour ceux qui n'ont pas un beau physique.
Ah oui.
Parce que Sartre
de toutes les époques malheureusement.
Mais toi Jérôme, tu as un physique.
Moi,
tu as un physique.
Physique de radio comme tout le monde.
Sartre dit dans une soirée, justement c'est très drôle parce que c'est une soirée déguisée où chacun doit venir masqué,
ouais.
Et lui c'est le seul qui n'a pas mis son masque, non. Et évidemment il a un masque de singe, et c'est Anaïs Nin qui lui dit mais Jean-Paul tu n'as pas mis ton masque, et il dit bon non pas vraiment besoin quoi, c'est très drôle.
Il a un peu d'humour sur lui,
oui.
Jean-Paul.
Et Jean-Paul
comme quoi il n'est pas tant si démoli que ça dans ce livre, il garde quand même un certain panache
et une certaine noblesse, ouais, du personnage, ouais. C'est vrai, d'ailleurs il dit à l'héritière des chocolats Meunier dans la... Alors c'est au cours d'un repas chez Mauriac.
Alors, faut que je te raconte.
Oui,
l'héritière des chocolats Meunier. En fait, je lisais des mémoires de Maurice Reims sur l'époque pour me renseigner un peu sur l'époque. Et Maurice Reims dit que la plus belle femme de cette époque, c'était l'héritière des chocolats Meunier. Tout de suite, je me suis dit, il faut que je la mette dans mon roman.
Et elle apparaît donc dans un dîner
dans
chez
un
les
dîner,
Mauriac,
voilà.
Hein, chez
elle est,
Jeanne
elle est
et François
très intriguée
Mauriac.
Par Jean-Paul Sartre.
Oui. Et Sartre dit « Si la nature m'avait doté d'un physique de maître nageur, je pense que je me passerais volontiers des mots. »
Ouais.
C'est joli.
Non
mais ton roman est un...
Il doit
un
se retourner dans sa tombe, le pauvre. Le pauvre Jean-Paul, il doit être outré.
Alors, il y a eu aussi une femme qui a été poignardée. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un meurtre.
Oui. Alors là, c'est une affaire vraiment qui a passionné l'époque. C'est l'affaire Laetitia Toureau. C'était vraiment le gros titre, hein, comme le petit Grégory dans les années 80. C'est l'affaire Laetitia Toureau. C'est une femme qui a vraiment passionné, un fait divers qui a passionné les foules. C'est une femme dont on a retrouvé, elle a pris le métro un matin. Et la station d'après, elle avait un couteau planté dans la gorge. Voilà, et on ne savait pas qui avait fait le coup, et ça a passionné les gens.
Évidemment, dans la moulinette de l'imagination de Jérôme Attal, la police retrouve une carte de visite,
ouais.
Des artistes Giacometti,
oui,
le cadavre de cette pauvre fille trouée d'un coup de poignard dans le métro.
Parce qu'à Montparnasse, les artistes voulaient des modèles tout le temps, donc j'ai imaginé Alberto distribuer ses cartes de visite à des jolies filles qui passaient, et il y en a une qui s'est retrouvée évidemment dans la poche de cette pauvre Laetitia Toureau.
Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans les cafés, Jérôme ? Est-ce que tu écris dans les cafés ou plutôt en solitaire chez toi ?
Je passais beaucoup de temps dans les cafés quand j'étais un peu plus jeune. Là, de moins en moins. J'y vais pour discuter maintenant, pas pour écrire. Avant, j'y allais pour écrire, mais je préfère écrire à la maison parce que j'aime bien la compagnie des livres que j'aime bien. C'est un peu mal dit, mais j'aime bien avoir mes livres de référence autour de moi, pouvoir plonger dans un de temps en temps pour me redonner un peu de peps. J'adore des auteurs comme Richard Brautigan, par exemple, qui est un auteur américain qui a écrit quelques livres avec des super titres comme La Vengeance de la pelouse. Il faut que tu lis ça. C'est
La Vengeance
joli.
De la pelouse.
Ouais, c'est très joli. Et Richard Brautigan, ses livres sont imparfaits, mais j'aime bien moi, les livres imparfaits parce qu'ils donnent envie. C'est un truc très euphorisant. Donc voilà, j'aime bien écrire à mon bureau avec les livres que j'aime bien. Mais sinon, je prends beaucoup de notes et j'aime beaucoup marcher. J'aime beaucoup écrire sans écrire. C'est-à-dire que je pense les choses se mettent en place pendant que je marche dans les rues. Voilà.
Tu seras sans doute d'accord avec moi, Jérôme.
Toujours.
Dans 37 étoiles filantes, il y a aussi des pages qui sont des éloges au café et à l'ambiance parisienne de cette époque.
Ouais.
Parce que des cafés, les références sont nombreuses. Le Dôme, la Coupole, il y a le café Alésia, il y a le Select.
Et je raconte l'histoire de Fernand Léger, là, qui est véridique et qui est extraordinaire.
Oui. Alors tu peux nous la raconter, cette histoire de Fernand Léger à la Closerie des Lilas.
Il est attablé à la Closerie des Lilas, en terrasse. Il voit passer une fille à vélo sur une robe de mariée. Alors, il est très intrigué par elle. Donc il l'a, elle, et la fille s'arrête. Et il lui dit, mais c'est quoi cette histoire? Vous êtes en robe de mariée sur un vélo? Et elle lui fait, ah, mais je me suis mariée à Bougival. Et je voulais essayer le cadeau de mariage qui était un vélo. Et donc, j'ai pas vu j'étais dans mon euphorie du pédalage. Là, j'ai pas vu la route défiler. Et je suis arrivé ici à Montparnasse. Et Fernand Léger va continuer à lui parler. Ils vont bien s'entendre. Ils vont plus se quitter. Il finira par se marier avec elle.
Et c'est effectivement dans 37 étoiles filantes. Alors, il faut qu'on mette un terme à cet entretien. Quelques belles phrases que j'ai relevées.
Ah.
Alors, j'ai pas les post-it, mais moi, je les ai recopiées. Donc, je les partage avec toi et avec celles et ceux qui ont la gentillesse de nous suivre. Alors, c'est dans l'appel de Porto Bello Road, par exemple, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est une nuit défectueuse.
Ah.
Qu'est-ce qu'une nuit défectueuse,
Jérôme?
Ah, je
sais plus, mais j'aime bien aussi. C'est pas mal.
C'est de toi, hein.
Ouais. En fait, non, mais j'aime bien parce que je trouve ça pas mal. Mais en fait, quand je me relis, c'est horrible parce que j'ai toujours envie de mettre la virgule ailleurs ou de changer le mot. Je trouve ça horrible de se relire. Mais là, une nuit défectueuse, je valide. C'est pas mal.
Jolie expression aussi, la sauvagerie banale de la rue.
Ouais.
Ça me plaît beaucoup. Dans le shaker géant de sa mémoire lointaine et immédiate, le shaker géant.
Ah ouais, ouais, bah...
Alors, le nez en pomme de terre. Il y a une jeune fille dans l'appel de Porto Bello Road qui a le nez en pomme de terre. Et je me demande si Olga n'a pas le nez en pomme de terre.
Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce
que une certaine obsession de la pomme de terre.
Non, ouais, je suis belge du côté de ma maman. Donc,
ça explique.
Donc il y a beaucoup de nez en pomme de terre et des joues en betterave chez les Belges.
D'ailleurs, à propos de la France, dans l'appel de Porto Bello Road, il y a donc une jeune Belge, puisque Ethan se rend en Belgique. Et il lui dit, je viens de France. Et elle lui dit, ce pays où pendant un demi-siècle, on a raconté des blagues belges et qui maintenant n'a plus envie de rire du tout. C'est presque vrai.
C'est pas faux. Hein.
Autre petite phrase, il voulut inventer un bobard aussi gros que l'État de l'Oregon.
Ah ouais. Ah, merci. Ah, mais ça me fait plaisir, Yannick, parce que c'est des...
Et je t'en donnerai d'autres micro que j'ai notés.
C'est pour ça que j'écris des livres, c'est pour ces petites phrases-là aussi, donc ça me fait plaisir qu'on les relève toujours.
Donc, pour le moment, ce qu'il faut relever, c'est le nom de l'auteur qui était aujourd'hui en notre compagnie et le titre de son roman qu'il faut urgemment se procurer en librairie, Jérôme Attal, 37 étoiles filantes, et c'est aux éditions Robert Laffont. Et puis moi, j'ai aussi coup de cœur pour l'appel de Porto Bello Road, qui m'a fait très plaisir.
Ça le réhabilite un petit peu, ce
livre. Et qui nous met dans une ambiance très particulière. Et quand on est à l'automne, où on ne se sent pas très bien, ben, l'appel de Porto Bello Road, c'est un vrai festin de papier,
génial.
Et c'est savoureux.
Mais le festin de papier, c'est aussi un truc excellent comme phrase.
Le festin de papier.
Le festin de papier.
Merci Jérôme Attal, c'est la fin de ce Wagon Livre. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro donc de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio.